Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui parfois, quand la nuit tombe, que le calme se fait, que les pensées les plus intimes s'installent, se demandent jusqu'où tout ça va aller, jusqu'à quelles profondeurs abyssales les grands studios nous entraîneront-ils dans leur acharnement à porter sur grand écran l'intégralité du catalogue des éditeurs de comics, jusqu'aux titres les plus enfouis, les plus confidentiels. Ces inquiétudes nocturnes ne nous auront pas empêchés d'aller traîner nos guêtres devant Shazam, dernier-né des studios Warner, dont on va causer avec un quatuor de vaillants combattants de l'ombre. Daniel Andreev, salut Daniel.
Salut.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Bonjour Thomas.
Julien Dupuis, salut Julien.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 184 et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Shazam, donc, nous met sur les pas de Billy, incarné par Asher Angel, adolescent presque normal, si ce n'est que le simple cri de Shazam, justement, lui permet de se transformer en super-héros au pouvoir, semble-t-il, sans limite, et au passage de prendre les traits de Zachary Levi. Évidemment, vous connaissez l'histoire, grand pouvoir égale grande responsabilité et grosse baston avec un grand méchant, en l'occurrence Mark Strong, alias le docteur Thaddeus Sivan.
Billy Batson, I choose you. Say my name so my powers will become yours.
Shazam!
I'd like to purchase some of your finest beer, please.
Sam. Derrière la caméra, pour peu que ça ait une importance dans le DC-verse, c'est David Sandberg, réalisateur de Dans le Noir et d'Annabelle Création. Et oui, et outre les acteurs précités, oui, ça va, tout le monde fait des erreurs. Au casting, on trouve aussi Grace Fulton, Jake Kick, Dylan Grazer et Jimon Hounsou. Votre avis sur ce Shazam, les amis? Julien Dupuis, bonjour. Bonjour Julien Dupuis.
Ça va,
alors,
ça va,
87 signatures, 82 non, seulement non, signatures, 82 bah, signatures
pas,
à l'heure où nous enregistrons cette émission.
La dernière fois que j'ai regardé, on était à 1 300 000, ouais. Je sais pas, mais t'as mis un jour.
Il y a eu un crash
rafraîchi, voilà, c'est ça.
Le quorum n'étant toujours pas atteint des 100 signatures, du coup, on va dire que c'est toi qui commences pour parler de Shazam,
Julien. Alors... écoute, je vais faire un truc qui est pas professionnel, mais je vais juste dire, j'en ai plein le dos en fait, quoi. J'en ai marre en fait de. Je sais que c'est pas très constructif, c'est pas une vraie critique et tout, mais c'est le premier truc en fait qui me vient à l'esprit. J'en ai plein le dos. Déjà, j'en ai plein le dos parce qu'on se farcit ces trucs-là et on sait que ça va pas être bien et c'est pas bien. Alors après, il faut mesurer le degré de pas bienitude, si j'ose dire, tu vois. Où on se dit, attends, c'est beaucoup plus nul ou c'est un petit peu moins nul, quoi, en fait. Alors là, c'est très très nul, hein. Et puis j'en ai marre parce que j'ai quand même passé ma vie de cinéphile pour l'instant à défendre, moi, ces films-là. Tu vois, déjà à les espérer pour une partie du temps, puis ensuite à les défendre, à dire qu'il y avait des vertus là-dedans et tout. Et c'est désespérant, en fait, de continuer à se farcir des films pareils. Donc voilà. Ça, c'est le premier, c'est le cri du cœur, quoi, si j'ose dire. Alors après, si je dois rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puis essayer de me pencher sur le cas Shazam, déjà, peut-être un point qui me semble peut-être important, c'est que tu as un peu balayé comme ça la présence de David Sandberg à la réalisation. Et pourtant, moi, ça me semble relativement important. C'est-à-dire qu'encore une fois, on se retrouve avec un mec qui est passé directement ou très très vite, déjà du court-métrage amateur qui avait fait un petit peu sensation sur YouTube, au film d'horreur produit par James Wan, si mes souvenirs sont bons, qui n'était pas bien du tout, hein, déjà, mais qui avait eu son petit succès correct, qui a fait une autre suite, mais tout ça, ça reste des tout petits budgets, et qui se retrouve totalement propulsé sur un film où Alors déjà, si tu veux, ce saut-là, tu te dis, le gars, alors il a un vague plan de carrière parce qu'il se dit, ça va asseoir ma position de cinéaste et tout, puis son agent doit dire, non mais attends, là tu vas te faire pas mal d'argent, tu vas être à l'abri pendant un moment, mais tu sais très bien que le gars ne va avoir aucun pouvoir,
aucun contrôle,
en fait,
sur le film,
aucun contrôle sur le film. Mmh. Et puis surtout, moi je me suis posé quand même la question de savoir, pourquoi lui ? Pourquoi le studio allait chercher lui, si ce n'est qu'il leur fallait un exécutant, un mec qui dise action est coupée, et encore, je ne sais même pas si c'était le cas. Et c'est un mec qui vient du cinéma d'horreur, qui manifestement était sur... Pourquoi lui, sur un truc comme Shazam ? Enfin, je veux dire, ce qui est intéressant dans ce miscast, qui n'en est pas un finalement, parce que ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas Adam Sandberg, c'est que c'est totalement transparent. C'est-à-dire que le gars, il vient avec n'importe quel bagage, il pourrait venir d'une émission culinaire à la télévision, t'as l'impression que ce serait la même chose, en fait. Bon. Après, sur le film en lui-même. Alors, il faut déjà savoir que le blockbuster, c'est un truc totalement anachronique. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression, et je sais qu'autour de la table, on est plusieurs à avoir partagé cette sensation-là, de voir un... Moi, je pensais à Meteor Man, des trucs qui sortaient directement en vidéo dans les années 90, qui sont totalement oubliés, mais c'est espèce de tentative de films de super-héros un peu comédie, un peu humoristique qu'on pouvait avoir, qui sont... évidemment totalement dépassé, mais il y a quelque chose comme ça dans le film qui est... tu te dis, bon, bah, le film de super-héros, de comics, il en est à un certain point aujourd'hui, et dans sa surexploitation et sa surreprésentation, tu te dis, bon, on en est encore là, en fait. Et ce côté suranné, complètement daté du film, est là sur à peu près toutes les constituantes, en fait. Oui. De son casting, par exemple, le fait que Mark Strong, qui est un acteur que j'aime beaucoup, moi, par ailleurs, mais fasse le méchant, c'est une non-idée totale, en fait, pour caster un bad guy. Et de la même façon, les animatiques, t'as l'impression de voir des animatiques qui ont été empruntées à d'autres films d'ici ou ailleurs, et avec une technologie, une façon d'aborder les effets spéciaux qui est peu ou prou équivalente. Et quand je vais dire ça, c'est pas une bâche, hein, c'est un fait. Moi, ça me fait penser à peu près au niveau des 4 Fantastiques de Tim Story. Il y a un petit peu plus de travail que ça sur certains plans, mais il n'y a rien d'autre. Et après, il y a tout ce que le film te raconte. Il y a une idée que moi, je trouve intéressante, parce que je ne l'ai pas vu beaucoup exploiter, en fait, dans les films de super-héros, qui est, quand tu as un grand pouvoir, au lieu de te le garder pour toi, tu peux être encore plus puissant en le partageant autour de toi, mais qui n'est pas du tout exploité. C'est-à-dire qu'on te pose ça, et je pense que ça vient du long développement. Je veux dire, il y a des tonnes de scénaristes qui sont payés des fortunes sur ces films-là. Forcément, il y en a un, au bout d'un moment, il a une bonne idée. Après, elle n'est pas travaillée.
Statistiquement.
Mais voilà, mais effectivement.
Ça vient du comics, en fait.
Mais oui, en plus, ouais, peut-être.
Alors, oui, c'est encore pire.
Mais je dois dire que moi, contrairement à Daniel, je ne connais pas du tout le comics. Ouais. Hein, donc voilà. Donc, il y a ça. Il y a une autre idée, qui est une idée avec le méchant, qui est que le méchant est habité par des espèces d'incarnation, si j'ose dire, des 7 péchés capitaux. Ça n'est jamais travaillé. C'est-à-dire que même au niveau du design des bestioles, c'est des designs hyper bateaux. T'as l'impression de voir n'importe quel démo ZBrush, et encore une fois daté en plus. Hein. Moi, j'ai l'impression de voir des démos ZBrush d'il y a 10 ans presque. Et il n'y a rien. Il n'y a pas de travail, en fait, là-dessus. Quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un moment, je crois que c'est la varice, peut-être, où il a deux paires de bras. Alors tu dis, ah bon, peut-être que le designer, il s'est dit, il va deux paires de bras parce qu'il a envie de saisir plus de choses et tout, mais il n'y a pas de travail là-dessus, il n'y a rien, c'est vide. Et le dernier point qui aurait pu être intéressant et créer un petit peu du caractère, en fait, sur le film, c'est le fait que le héros est en fait deux enveloppes charnelles. C'est-à-dire qu'il est à la fois un ado de 15 ans qui, quand il se transforme, devient un adulte. Donc c'est le côté un peu à la Big et tout. Ce qui ne fonctionne, mais alors jamais. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression, enfin moi en tout cas j'avais l'impression, c'est même pas le Dr Jekyll, Mr Hyde, si tu veux, c'est que c'est deux personnages différents. Mmh. C'est-à-dire que quand il est frappé par la foudre, ce personnage-là, il en devient un autre. Mais tu n'as pas de continuité. C'est-à-dire que tu as un gamin qui, quand il a 15 ans, est un petit peu mélancolique, toujours un peu tristoun et tout. Puis paf, il se transforme en Zachary Lévy. Puis alors là, c'est la gaudriole, il saute partout et tout. Et à aucun moment, je me suis dit, mais il n'y a pas de continuité là-dedans. Ça aurait pu être super intéressant de travailler, en fait, là-dessus. De, que le personnage ait le même arc émotionnel, par exemple sur des mini-scènes, en passant d'un personnage à un autre, que les deux enveloppes se répondent, quoi, tout simplement, ou qu'il a un décalage, ou enfin voilà, mais il n'y a rien là-dedans. Donc, tout ça pour dire que, encore une fois, et c'est ce que j'essaye de faire avec tous ces films-là, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt de les critiquer, j'essaye de me foutre à la place, encore une fois, des gens qui sont encore clients de ces types de films. Je ne vois pas ce que vous pouvez y trouver. Il n'y aura pas de spectacle. Les gags, vous les avez à 10, peut-être, gags près, vous les avez tous vus dans la bande-annonce. Et tout ce que le film aurait pu apporter comme concept n'est pas exploité. Voilà.
Daniel, alors comment passer après ça?
Non, bien sûr, mais c'est très bien.
En plus, connaît très bien.
Il y a une problématique que Julien a vraiment bien résumée, c'est-à-dire où est le cinéma. Écoute, on va battre sur un autre tableau, je pense. Moi, j'ai reçu un SMS de Thomas qui me dit viens parce que on n'arrête pas de bâcher les films de super-héros. c'est chiant. En plus, Stéphane, à la fin, il parle d'Anaconda. Sauve-nous. Viens, s'il te plaît, nous parler de Captain Marvel. Captain Marvel. Lapsus intéressant.
On n'a pas fini l'émission encore.
Puisque Shazam, Shazam s'appelait Captain Marvel.
Tout à fait.
Alors, pour moi, ce film-là, c'est le film de la consanguinité des films de super-héros absolus. D'abord, là d'où je viens, la consanguinité a plutôt mauvaise presse, donc c'est plutôt un truc négatif que je dis là. C'est que...
C'est où la consanguinité?
En Russie, figure-toi. La Russie, figure-toi.
En bonne presse. Non, bonne presse.
C'est où? Ici, par contre, ça passe bien.
Ça dépend. Je sais pas vous, mais moi, chez moi, non. Et le truc...
Je me prononce pas pour la Bretagne.
C'est une référence au streamer... jeux vidéo qui font l'apologie de l'inceste.
Je ne sais pas. Bien vu. C'est très très deep. Alors revenons-en. Alors pourquoi la consanguinité? C'est parce que Captain Marvel sorti il y a même pas un mois et l'autre nom de Shazam en fait. Oui. Déjà il y a deux personnages Captain Marvel qui sortent à un mois près par deux studios différents. Là il s'appelle Shazam parce que pour des raisons de droit le personnage a été vraiment renommé Shazam en 2011. Mais c'est pas tout. Jimon Unsu qu'on a déjà vu dans Guardian of Galaxy, il joue là-dedans. On l'a déjà vu il y a 3 mois dans l'inimitable, l'incommensurable Aquaman, où il jouait un rôle d'un petit roi aquatique, enfin un roi poisson. Et donc ils se sont dit, putain, lui, il faut vraiment aussi le prendre dans notre écurie parce que ça va vraiment être un gars bien. Et Zachary Levi, il jouait le rôle de Fandral dans Thor. Et alors ils se sont dit, putain, les Warriors Free, ils étaient vraiment bien dans Thor, c'était vraiment des personnages vraiment bien traités, on va l'embaucher. Et du coup, c'est le moment où ils se refilent les acteurs. Déjà, on l'avait déjà vu, la génération d'avant, Captain America qui était avant le Human Torch avant. Donc du coup, là, c'est l'abdication totale de DC, c'est-à-dire on fait des films à vue et on va essayer de la jouer Marvel. Alors qu'est-ce que ça veut dire, se la jouer Marvel? Si on va dans le bac à jouets et on essaye de trouver le jouet le plus abandonné, celui dont plus de gens ont rien à foutre. Chez Marvel, ça s'appelle Ant-Man. Ici, ça s'appelle Shazam. Ils l'ont pris très très profondément. Ils se sont dit, bon écoute, on va essayer de respecter au maximum ses origines. Et alors c'est très compliqué parce qu'en plus c'est un vieux héros. C'est quand même un héros qui est né dans les années 30-40, tu vois. Donc c'est un personnage dont les origines ont été réécrites 15 fois, ils ont essayé d'en faire quelque chose de cohérent. C'est même pas si mal. Le seul problème, c'est que ils se la jouent Marvel, c'est-à-dire ils font de la vanne à fond. Et alors du coup ils se sont dit, bon, le modèle Deadpool, c'est des templates à chaque fois. Le modèle Deadpool, il a bien fonctionné. Donc du coup, on va prendre le modèle Deadpool, mais on va le faire accessible pour tous les enfants. Alors, à part quelques... Il y a une femme qui se fait incinérer et quelques autres moments, une insulte. Et un moment, le héros qui téléporte toute sa famille dans un strip club. À part ça, c'est un film familial. C'est ça qui est très, très bizarre. C'est qu'ils ont essayé de faire le truc...
Enfin, même ça, c'est traité de manière familiale. Hein.
Ouais, il le vois pas. Il cache les yeux de la petite.
C'est-à-dire que c'est ça peut plus... Ouais, qu'un Mortal Kombat, quoi.
Libre à toi.
C'est un film familial.
Un bon film familial.
Non, mais vraiment, il y a un vrai problème dans qu'est-ce qu'il leur reste à faire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. La marge de manœuvre chez DC, c'est un fichier Excel et ils regardent, putain, faut qu'on ait une idée avant 2021 pour tel héros, qu'est-ce qu'il nous reste dans le... Est-ce qu'on peut pas faire un spin-off de Black Manta, le méchant de Aquaman? Est-ce qu'on peut pas faire... Ils sont à ce niveau-là d'écriture, de... c'est presque, il le joue au dé en fait. Hein. C'est pour ça que tu disais quel réalisateur, mais ils s'en foutent complètement. Et ça se voit à l'écran, c'est que c'est...
Là, tu viens de parler des films Marvel.
Je te laisse libre.
Consanguinité, on retombe
dessus. Point précisément. Du coup, il n'y a pas de, il y a pas de cinoche là-dedans. C'est un film à 100 millions, mais c'est un film qui pourrait être fait en 20. Enfin, t'as l'impression, genre, quand tu vois la grotte de Shazam, elle est dégueulasse. Le décor à la fin, c'est un parc d'attractions tout pourri. Il y a pas d'intensité. Et puis les scènes de sitcom, en fait. C'est surtout ça, en fait. Les scènes de sitcom de famille et tout, c'est nul. C'est vraiment pas très bien. Ça met du temps à mettre en place, ça dure 2 heures pour raconter tout ça. Tu disais que Shazam est un personnage mineur. Le film le traite comme ça.
Oui.
Ouais, en fait, c'est même carrément ça. En fait, c'est-à-dire le choix de Zachary Levi pour moi et de le faire jouer de cette manière-là. Et moi, je le trouve horrible. Hein, le personnage, le traitement, l'acteur, c'est une manière de dire, en fait, c'est désuet, donc on va le traiter de manière désuète. Voilà. Alors que je pense que potentiellement, tu peux faire autre chose. Alors, à la base, il me semble que c'était The Rock qui était censé interpréter le personnage.
Non, il devait faire Black Adam, le méchant.
Ouais, mais il s'est posé des questions sur les deux trucs, tu vois. Donc le problème, c'est que pour moi, un personnage comme The Rock, ça faisait, enfin, un acteur comme The Rock, ça faisait plus sens en fait, parce que déjà dans la transformation, t'avais un vrai plus à gagner, quoi. Et
on est passé de The Rock à Gérard Vives, quoi. c'est ça la catastrophe.
Je sais même pas si ça s'est entendu.
Il y a eu un chien aboiement de chien, je crois, mais c'était étrange. C'était... Bref, reprenons.
Ouais. Et en fait, avoir un acteur comme The Rock en fait à la place de Zachary Levi, ça faisait plus sens. Un, parce que déjà c'est un meilleur acteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait jouer la comédie, c'est quelqu'un qui sait jouer avec le côté bizarre et de son corps, enfin tu vois, de le côté bigger than life de son corps. Et voilà. Sauf que bon, bah comme me le pointait Julien du doigt, il l'a fait récemment avec Jumanji, donc en fait forcément oui. Jouer un ado dans le corps d'un adulte, il l'a déjà fait. Moi j'aime pas du tout Jumanji, mais c'est lui, il a bien fait son rôle, donc ça va, quoi. Après le souci du film en soi, bah c'est que effectivement, comme l'a dit Julien, t'as l'impression vraiment de regarder un truc complètement anachronique pour moi, hein. Si ce n'est que t'as des effets spéciaux numériques, c'est vraiment coincé entre The Mask, Spawn, Le Fantôme du Bengale. C'est vraiment le film qu'ils ont oublié de sortir à cette époque-là, j'ai l'impression, quoi. Et voilà. Et après, bah, dans les référencements de super-héros, enfin, là où tu te rends compte qu'ils savent vraiment pas quoi faire, c'est l'apparition finale de Superman.
Ah, attends,
quoi.
Tu veux spoiler,
hein. Ah, bah,
ah, on spoil.
Voilà. Non, mais ce qui est génial, parce que donc, ils font apparaître Superman avec le costume du Superman, enfin, du Man of Steel, quoi, actuel. Sauf qu'en fait, on monte pas sa gueule parce qu'ils ont viré, Henry Cavill. Donc j'imagine trop la scène, c'est putain, bon alors attends, merde, il y a quelqu'un qui appelle Henry Cavill pour le faire venir. Mais non, on l'a viré. Vas-y, Bob, appelle-le quand même et tout. Non, je l'appelle pas, moi. Tu vois, et donc en fait, le mec.
Vas-y, José, toi t'es grand, mais le costume.
Et du coup, il apparaît comme ça et tu te dis, mais c'est quoi ce non-événement, puisqu'on l'a déjà vu 3 fois dans 3 films différents, ou 22 ou 3, je sais plus combien il y en a eu, avec lui, 3. C'est quoi l'événement en fait de faire apparaître ce perso à la fin, même ne serait-ce que pour donner une carotte en fait qu'on a déjà vu dans d'autres films, quoi.
Mais c'est marrant parce que ce DC univers, c'est pitoyable, ça me fait penser à ça, personne n'en parlait pour l'instant. C'est vrai que il y a ce truc là avec Superman qui est le plus voyant, quoi, mais même tout ce qu'ils essaient, voilà, tout ce qu'ils essayent de faire avec le reste, c'est petit, c'est des petits,
ouais,
trucs,
puis,
c'est
puis pas les placements de merchandising, c'est à dire qu'à un moment les mecs ils sont en train de se battre dans un magasin de jouets, ce n'est que des jouets DC, ouais. Quoi, donc en fait il en prend un Batman, il le balance sur la gueule de l'autre, tu vois. Et c'est vrai que nous, on l'a vu dans une salle où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans, apparemment, qui donc en fait étaient morts de rire à chaque moment, comme ça, en fait, à chaque référence.
Il y a une vanne sur Marvel, quoi. À un moment. Voilà,
c'est une vanne sur Marvel.
Ouais. Mais elle est vraiment, vraiment cachée. Ouais.
Ah, vas-y.
Non, j'espère.
Ah, bah non,
je me refuse.
Tu spoil pas, nous, on l'a vu.
Je refuse de spoiler.
Non, mais en plus ça confine à l'autodénigrement et ça va jusqu'à la dernière scène post-générique qui se fout plus ou moins de la gueule d'Aquaman, qui est le film qui est sorti il y a 6 mois.
3 mois,
ouais, c'est un truc.
C'est des comédies, donc ils s'en foutent.
C'est dommage parce qu'Aquaman est un authentique classique du cinéma maintenant.
On peut le dire.
Je partage la lassitude un peu de tout le monde et celle dont parlait Julien au début. C'est à quoi bon.
Après Aquaman.
Aquaman, à quoi bon. Et non, mais alors, il y a vraiment plein. Moi, je trouve effectivement qu'un des pires trucs, c'est que dans ce type de film qui est une comédie, ça repose essentiellement sur l'acteur principal. Et en fait, Stéphane évoquait The Mask. Alors, peut-être que j'en garde un trop bon souvenir par rapport à ce qui est vraiment le film.
Par rapport à l'âge que avec lequel tu l'as vu.
Mais voilà, au moins Jim Carrey. Alors, le problème d'ailleurs dans The Mask, on en parlait, c'est que tu vois pas tant que ça le boulot de Jim Carrey, parce que quand il met le masque, ça crée un autre personnage avec pas mal d'effets spéciaux. Voilà. Et en fait, là, je trouve l'acteur mais vraiment catastrophique. Et il a d'une part un très très peu de charisme et pas du tout intéressant. Et en plus, comme disait Julien, le problème, c'est que ça ne crée absolument rien dans le rapport qu'il a avec l'ado qui tient le même rôle. C'est-à-dire que on n'est ni dans quelque chose comme Big, auquel il y a une référence directe d'ailleurs dans le film, où c'est un ado dans le corps d'un adulte, parce que quand il devient adulte, il se comporte comme adulte, même il a un champ culturel qui est différent du personnage de l'ado. Oui. C'est-à-dire, à un moment, il va se lancer dans un monologue sur les 7 péchés capitaux, où tu te dis, c'est impossible que le personnage ado qui nous a été présenté tienne ce discours-là, quoi. Mmh. Et alors, par moment, il y a des bribes de trucs où il se met à danser comme dans Fortnite ou à faire des trucs comme ça, où tu dis, bon, ok, mais tout ça est complètement incohérent, et tu passes d'une scène à l'autre en te demandant, mais c'est quoi les règles du personnage, etc. Et il n'y a pas non plus le côté... lutte du personnage de l'ado avec ce qu'il devient quand il se transforme, ça non plus ça fonctionne pas.
Bah, plus forte raison, parce que il y a ce traitement en fait des gamins, c'est-à-dire qu'il y a un truc, moi il y a une idée que je trouvais intéressante, c'est que c'est des enfants de la DAS en gros, ouais. les gamins, et donc
qui
le
sont dans la maison du bonheur un peu.
Ouais, bon voilà, mais c'est ça le problème, c'est que justement tout ça c'est pas du tout traité à la mesure, ouais. Ça se voudrait un petit peu entre guillemets réaliste, je dis bien entre guillemets, hein, parce qu'en fait on va traiter de quelque chose d'un peu qui existe dans notre monde, quoi. Et en fait, il le développe jamais. Et effectivement, tu n'achètes jamais le truc, parce que c'est la maison du bonheur en soi, c'est une chose. Mais c'est pareil. En fait, c'est-à-dire que le moindre moment où ils vont filmer ça dans une ruelle, tu vois que c'est un studio. Le moindre moment, enfin bon, sans même parler de la cave, hein, en l'occurrence, c'est vraiment juste une scène dans une ruelle où les mecs ils vont se faire tabasser par des bullies, tu vois. C'est tu vois que c'est pas du tout. Enfin, il y a rien de, sans même parler de faire un film cru, hein. Il y a rien de prégnant en fait là-dedans. En fait, tu sens pas que leur vie elle est si difficile que ça. En fait, c'est ça qui est bizarre, quoi.
Et par ailleurs, en fait, narrativement, je trouve qu'il y a vraiment un très très gros problème qui est lié à l'exposition, ou même en fait les expositions du film, qui sont hyper longues et en fait qui se succèdent les unes aux autres. Donc en fait, on a une première exposition qui va nous introduire le méchant, la raison pour laquelle il est devenu méchant, puis une deuxième exposition qui nous introduit le personnage principal pour nous faire comprendre c'est quoi son problème dans la vie, le fait qu'il a été qu'il a perdu sa mère, enfin perdu au sens il sait pas où elle est sa mère quand il était enfant, puis un truc qui va nous amener à comment il se retrouve dans cette maison d'accueil. Et en fait, toutes ces présentations, toutes ces introductions, elles repoussent énormément ce qui est le cœur du film. Et quand tu as pitché le film, Thomas, au début, tu dis, bah voilà, c'est l'histoire d'un ado qui, en disant Shazam, se transforme en super-héros. Mais ce film-là, il commence au bout de 25 minutes, quoi. Ouais.
Oh là, t'es gentil.
Et encore même plus, 40, peut-être. Ouais. Et
ça dure 2h15, il faut le dire aussi.
Ouais, voilà, donc tu as une notion du temps complètement dilatée. et du coup, on est dans un truc qui déjà narrativement est complètement foiré, parce qu'on n'arrive pas à vraiment s'intéresser aux enjeux des personnages, parce que tout nous est dévoilé à l'avance et de manière hyper poussive, quoi. Il y a pas d'attachement émotionnel à ce qui leur arrive. C'est vraiment une sorte d'adaptation très littérale des codes qui ont dû, là je parle sous le contrôle de Daniel, mais qui
sont tous sous le contrôle de Daniel.
Qui sont imaginés.
Faites ce que vous voulez, les gars.
qui sont imaginés par le biopic et par le qu'est-ce que je vous raconte par le, qui sont imaginés dans le comics et voilà, donc on est dans un truc voilà, c'est limite une présentation PowerPoint hyper littérale, hyper chronologique de c'est quoi ce film quoi.
Mais je pense que ça vient aussi du développement du film. C'est-à-dire qu'on parlait de ces enfants abandonnés, etc. Moi, j'ai eu l'impression, et ça participe en fait au délitement du film et puis à son manque de personnalité, j'ai quand même l'impression, en y réfléchissant et aussi en vous entendant tous, qu'on est face à un film qui a dû connaître un développement chaotique et avec diverses directions. Et t'as dedans, je pense aussi, et c'est peut-être aussi, ça explique peut-être aussi le choix du réalisateur d'ailleurs, hein, des choses qui sont trop chocs et qui sont jamais abouties quoi. Et effectivement, moi par exemple, c'est vrai que cette idée des gamins, alors je sais pas si ça vient du comics quoi, mais cette idée des gamins de l'orphelinat, on va dire quoi, pour aller plus vite, enfin de la famille d'accueil plutôt. J'ai l'impression que c'était une idée peut-être qui avait plus d'importance, qui était plus là, qui lançait plus une thématique. Parce que c'est pareil, que le gamin il soit dans une famille d'accueil ou qu'il soit chez ses parents, ça n'a finalement pas grand intérêt.
C'est la famille, Julien.
Mais non, justement. Enfin,
bah,
tu vois,
parce que le méchant, il a perdu sa famille.
Voilà. Je pense aussi que ce problème d'exposition laborieuse vient aussi de ça. Quoi. Voilà.
Et puis, il y a aussi un gros problème, tu l'as souligné, Julien, c'est pour faire un bon film de super-héros. Je sais pas ce que vous avez pensé. Moi, j'ai bien aimé Infinity War parce qu'il y avait un méchant en fait. Et quand t'as un méchant et tu comprends son mobile et tu comprends pourquoi il fait ça, c'est beaucoup. Tu comprends mieux et tu arrives à t'impliquer dans l'histoire. Et là, Mark Strong, que j'adore vraiment, j'adore ce comédien. J'ai toujours un plaisir fou de le voir. Tu sens qu'il a cachetonné quoi. Il a quelques scènes vraiment diluées au début. Ensuite c'est une baston à la Superman. Ils lui ont donné les mêmes pouvoirs. Donc t'as pas d'implication, t'as pas le sentiment de quel est leur rapport à leur physique,
De toute façon, le jeu de pouvoir, c'est pareil. En fait, la façon dont ils découvrent les pouvoirs, alors tu sais, ils les checkent en fait dans le film. Alors bon, toi t'as l'invisibilité, non, t'as le super vitesse, etc. Ça c'est des trucs en fait qui sont jamais. Tu sais pas comment ils les maîtrisent, tu sais pas comment ils les récupèrent.
Ils les utilisent pas.
Voilà, ils les utilisent carrément pas. Et en fait, t'as carrément dans la conception même, moi j'ai l'impression qu'ils ont carrément pris des animatiques de Man of Steel, c'est-à-dire qu'en fait il y a ce moment où il envoie un pain, ils sont en train de survoler la ville, ils s'envoient un pain et le perso part dans une espèce de ligne de fuite. Je dis, mais c'est un plan qui était dans Man of Steel il y a 5 ans, 6 ans là, donc t'as vraiment l'impression qu'ils ont repris le truc parce qu'ils se sont dit, bon ben on n'a pas d'idée, donc on va reprendre ce qui a été fait à l'époque quoi. Et en ça, c'est là où le film est extrêmement pauvre en fait, même pour un film de super-héros quoi.
Pour terminer, chers amis, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations. On peut rester dans le monde merveilleux des films de super-héros, mais pas du tout obligé. Daniel, tiens, gardes la main. Vous gardez la main.
Bah écoute, moi, ce que je propose toujours, c'est de retourner au matériel d'origine.
Oui.
Et le problème, c'est que Shazam, Shazam ou Captain Marvel, c'est un personnage quand même très composite, qui a eu énormément de périodes différentes. Ouais. C'est un personnage qui n'appartenait pas à DC, il faut le savoir, à l'époque, et qui ensuite a été racheté par DC. Et ensuite, il a mis pas mal de temps avant de revenir dans le monde DC. Ensuite, il a été rebooté un bon nombre de fois. Donc, c'est un personnage qui est dur à suivre. Les reboots actuels, ils ont leur petit charme, surtout qu'il y a un tigre. Toute la vanne du tigre qu'on voit dans le film, avec la peluche, en fait, c'est une référence au Shazam actuel, puisqu'il y a un tigre dans la Shazam Family. Et j'aurais adoré voir un tigre. Je trouve qu'on ne voit pas assez de tigres au cinéma, et surtout au cinéma de super-héros.
C'est vrai.
Alors, quelle est la version de Shazam ou de Captain Marvel que je conseillerais? Je trouve que, justement, Captain Marvel, je persiste à utiliser Captain Marvel parce que j'ai toujours appelé Captain Marvel. Mais donc, Shazam.
T'embrouilles tout le monde.
Ouais, mais je suis désolé.
C'est le bordel.
Ils ont le même blaze. Bon, Shazam, le truc qui est intéressant, c'est qu'il a le même pouvoir de Superman, mais Superman incarne vraiment DC. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser Shazam comme un contrepoids de Superman. Ouais. Et donc, quand il est méchant, il est plus intéressant, en fait. Et il y a un comics où il est de notoriété qu'il est méchant parce qu'il est hypnotisé, il est sous le contrôle de Lex Luthor. C'est un comics qui s'appelle Kingdom Come, écrit par Mark Waid et dessiné par Alex Ross, qui est une uchronie post-apocalyptique sur Superman qui a renoncé. Alors, j'aime pas les comics où Superman part du principe que Superman renonce et abdique, mais voilà, c'est le point de départ. Et
c'est très spécifique. Hein.
Ouais, je suis désolé, hein, je suis comme ça. Mais par contre, donc Superman, il fonctionne un peu bizarre, et donc il va revenir, mais Shazam est contrôlé par le méchant, et du coup, il devient une arme terrifiante, et où son pouvoir de balancer la foudre en disant son nom devient devient vraiment le climax de la BD. C'est magnifiquement peint par Alex Ross, puisque Alex Ross, il peint ses bandes dessinées. C'est assez beau, c'est métaphorique. Il met en scène son propre père dans le rôle du narrateur, en fait. Vraiment, c'est un comics de très, très grande qualité. Si vous voulez un truc facile d'accès, Kingdom Come, donc, de Mark Waid et d'Alex Ross.
C'était sorti en recueil chez Urban Comics il y a quelques années. Une très jolie édition. Julien ?
J'aurais aimé penser à cette reco, effectivement.
Désolé, c'est la facilité pour moi, c'est de prendre les bouquins.
Écoute, j'ai réfléchi à une reco, j'ai pas trouvé un truc démentiel, mais je conseillerais quand même de revenir sur un film qui a mine de rien 16 ans, et qui est produit par Warner, en fait. C'est pour ça aussi que je le conseille, parce qu'on voit le gouffre, en fait, qui sépare en fait les deux, à cette époque où Warner, ils étaient beaucoup plus courageux, ils mettaient en avant peut-être plus facilement les réalisateurs, et je trouve intéressant de recommander ce film dont je vais vous donner le titre tout à l'heure après ce suspense sans insoutenable suspense. Non mais parce que je trouve ça aurait pu, mais parce que je pense que le film, quand il est sorti, il a été ce que je vais conseiller, enfin en tout cas a été parasité par beaucoup d'autres débats qui étaient pertinents, hein, à l'époque, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de le ramener. En fait, c'est Matrix Révolution, et plus spécialement le combat final de Matrix Révolution, parce que encore une fois, ça a 16 ans. Je trouve que c'est intéressant de revenir à ça, à ce que proposaient les Wachos à l'époque, alors qu'ils n'avaient pas du tout accès à la technologie qu'on a aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça a fait un bond monumental, hein, les images de synthèse et tout depuis. Et puis, décorrélé donc de sa sortie, des attentes parfois peut-être déplacées qu'on avait vis-à-vis des films, et aussi peut-être détaché de tout le reste. C'est-à-dire que moi, je peux entendre qu'on soit pas... Moi, je ne suis pas super client, par exemple, de la structure narrative du troisième opus. Je trouve que ça met très longtemps à démarrer, qu'il y a vraiment des passages un peu difficiles à digérer et tout. Ça reste des films fascinants que j'adore, mais voilà, il y a quand même des problèmes. Mais juste cette séquence-là, en fait, je trouve que la revoir aujourd'hui et la voir en sortant de Shazam, qui justement échoue totalement à nous proposer un spectacle, ne serait-ce que ça, ça permet de tirer un état des lieux qui est quand même pas bien fameux, en fait, de l'état des studios aujourd'hui et l'état de frayeur aussi, et du coup de comment ils sont sclérosés, comment ils n'arrivent plus à avancer, comment ils n'arrivent plus à proposer du neuf et à s'engager sur des choses novatrices. Et puis comment finalement Matrix Révolution avait déjà compris énormément de choses, il me semble, à l'imagerie de comics, à ce qu'est un découpage de comics, à comment tu traites les corps dans le comic book et dans ce type de scène. Voilà.
David ?
On a cité plusieurs fois dans l'émission Big de Penny Marshall, qui est un film que je trouve intéressant, donc qui est un film des années 80, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui se réveille un matin après avoir fait un souhait dans le corps de Tom Hanks et qui va faire un peu de carrière dans les
Il n'a pas fait un souhait dans le corps de Tom Hanks, hein,
il a fait un souhait devant un génie
dans le corps de Tom Hanks.
Et en fait, je voudrais en profiter pour recommander toute la filmo de Penny Marshall, qui est morte carrément, qui est morte en décembre dernier, en décembre 2018. Et je trouve qu'il y a vraiment pas mal de enfin, elle a une filmo de moins d'une dizaine de films, et y en a plusieurs qui veulent le coup, y compris Jumping Jack Flash avec Whoopi Goldberg.
C'est pas le pire.
Qui vaut vraiment cette replongée dans l'internet tel que ça pouvait être imaginé au milieu des années 80. Je recommande aussi L'éveil avec Robin Williams et Robert De Niro.
Ne l'écoutez pas.
Attendez, L'éveil, c'est un film. C'est dans une autre veine. On est plus dans le cinéma Oscar, mais c'est des grosses performances d'acteurs. Une équipe hors du commun, qui est un super film sur le baseball et la ligue féminine pendant la guerre avec Avec tout le monde, voilà, vous l'avez dit. Et puis Tom Hanks en coach alcoolique. Et puis, bon, je survole un peu, mais son dernier film en tant que réalisatrice avec Drew Barrymore s'appelle Écart de conduite, et qui est sur une...
Au volant les gars, au volant avec les gars au Québec.
Ah bah oui, bah je connaissais
toujours,
pas ce titre.
Toujours bien.
Mais voilà, c'est Drew Barrymore.
Parce que c'est Riding in Cars with Boys.
Ouais.
Au volant avec les gars.
Au volant les gars.
Ils sont toujours très littéral hein, au Québec. Hein.
Et voilà, elle tombe enceinte quand elle a 15 ans. Ses parents veulent pas qu'elle avorte. Et du coup, elle doit vivre avec ça, renoncer un peu à ses rêves d'être écrivain. Et c'est un très beau film. Voilà, donc se pencher sur la filmo de Penny Marshall plutôt que... d'aller voir Shazam.
Très bien, très bonne recours.
Très bien, Stéphane.
Alors, mon amour, mon affection, mon attachement à Anaconda n'est pas passé inaperçu, j'ai l'impression, puisque en fait, on me partage en permanence en fait sur Twitter, sur Facebook, tout ce qui a trait à Anaconda. Par exemple, on me dit, voilà, il y a un superbe coffret Blu-ray qui sort avec les quatre Anaconda. Bon, j'ai envie de dire, il y en a qu'un qui compte vraiment, hein, mais voilà. Donc, on me l'a partagé 15 fois, je le sais, je sais que ça sort, les gars, merci. On m'a partagé une superbe vidéo comme ça d'un Anaconda de 30 mètres, en fait, actuel. Hein, ouais. Voilà, on me l'a partagé, mais je sais pas combien de fois. Et ce qui est assez évident, en fait, quand tu vois cette Anaconda, c'est que tu vois qu'en fait, c'est un peu comme, tu vois, les gosses qui regardent aujourd'hui les films de super-héros, qui se disent, ah, j'ai envie d'être grand comme ça, j'ai envie d'être fort aussi, tu vois, et qui se mettent à la muscu, par exemple, quand ils voient Arnold, cet Anaconda, il a vu Anaconda, il a dit, je veux être comme cet Anaconda. Et être fort, grand, voilà, c'est pour ça qu'il fait 30 mètres, tu vois, les anabolisants. Et du coup, en fait, ça m'en vient à, bah oui, mais ça m'en vient à parler un peu je sais que Anaconda a une place importante dans l'histoire du cinéma, je le sais.
Dans l'histoire de l'humanité même.
Voilà, ça fait quand même 3 ou 4 mois que je me tue à vous le dire.
C'est vrai.
Donc je le sais que tout ça c'est lié à Anaconda, je le vois bien, qu'il y a une suite à tout ça, il y a quand même 3 films derrière qui sont pas à la hauteur, mais on le sait, tu vois. Voilà. Mais moi j'aimerais parler d'un petit truc en fait que les gens ont tendance à oublier, et pourtant tout le monde connaît ça de cette époque-là quoi. À l'époque on n'avait pas des smartphones, à l'époque on n'avait pas des trucs aussi technologiques, aussi sophistiqués. Quand on avait un pauvre petit Nokia tout pourri là, et ben il y avait déjà l'adaptation en jeu vidéo d'Anaconda sur votre téléphone quoi. Et c'est une évidence que c'était une référence à ça quoi. Alors sauf que le problème c'est qu'ils appelaient ça le serpent. Ouais. Voilà, mais tout le monde sait que c'était Anaconda. Moi je jouais à Anaconda.
Le serpent au Québec.
Le serpent au Québec, Anaconda en France, tu vois, sur votre Nokia. Et tout de suite, tu sentais le sentiment de puissance que l'Anaconda avait quand il prenait ses victimes et tout ça, etc. etc. quand t'attrapais le petit pixel, tu vois.
Un animal sexué. Hein,
oui, non, mais alors voilà, c'est parce que tu m'as. Voilà, merci Daniel.
Les gens se sont plaints depuis la semaine dernière
sur Twitter. On a eu des remarques. Beaucoup de pétitions, des hashtags et tout ça. Voilà, en disant Stéphane a raison, c'était ça le hashtag, je crois. Voilà. Stéphane a raison, hashtag Anaconda est le plus grand film de l'histoire du cinéma, mais c'est un long hashtag.
Quelle indignité.
Et ben voilà, je voulais parler de ça, je voulais parler de la trace que Anaconda a laissée dans l'histoire de l'humanité, effectivement. Donc notamment, par exemple, voilà, je trouverai certainement autre chose la prochaine fois, mais le serpent sur votre téléphone Nokia, t'avais un téléphone Nokia ?
Oui,
tu joues au serpent ?
Ça sent la fin quand même, Stéphane.
Non, non. Moi j'aimerais bien qu'il sorte le serpent 99, tu vois, comme Tetris 99, et je suis sûr que ça reboutera le truc, tu vois.
On attend le Critérion toujours. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Quentin, à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.